Bonjour Camille.
Bonjour Sandra.
Alors, de quel thème allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des écrans.
Voilà. Très, très intéressant de voir comment on peut s'en détacher, justement.
Voilà,
voilà, nous vous écoutons.
Donc, les écrans, c'est un vaste sujet qui ne laisse personne indifférent et qui pourrait mériter plusieurs émissions. Là, en préparant, je me disais, oh, qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je ne vais pas dire ? Parce qu'on ne pourra pas tout dire. Donc, dès qu'il s'agit d'écrans... tout de suite, ce sont des réflexions, des commentaires, des questions, des discussions qui s'enflamment. Par exemple, on peut entendre « L'écran devient la seule passion de mon enfant, de mon ado, hors de son écran point de salut. » On entend aussi « Son cerveau est comme hypnotisé par la fascination de l'écran. » On peut entendre des parents dire « Faut-il mettre des tout-petits devant Skype pour dire bonjour à un parent en voyage pour un long temps ?» À quel âge ? Combien de temps d'écran pour respecter la maturation du système oculaire ? Comment gérer le temps passé devant les écrans ? Est-ce qu'il faut faire un contrat avec l'enfant, un forfait d'heures ? Pour ou contre les écrans à l'école pour les apprentissages ? Que faire devant la pornographie qui touche les enfants de plus en plus jeunes ? Est-il normal que mon enfant, qui s'est empilé 3 cubes sur l'écran de mon smartphone, ne sache pas le faire en vrai ? Etc. Il y a beaucoup à dire. C'est un sujet récurrent lors de nos entretiens avec les familles. Nous limiterons donc à quelques réponses sur ces questions, quitte à y revenir une prochaine fois. Alors, quel est l'adulte à plus forte raison, l'enfant, qui serait indifférent aux images ? On n'a jamais écrit de livre pour petits-enfants sans laisser une place à l'illustration, d'autant plus large que l'enfant est petit. Un grand nombre de revues destinées aux adultes insèrent systématiquement images, photos, dessins, etc. Pour être plus facilement vendues, car pour beaucoup d'entre nous, elles facilitent la lecture. L'image fait partie de nos vies, elle est essentielle même. Elle est un langage à elle seule. Parfois même, un dessin vaut mieux qu'un long discours, dit-on. Alors, depuis plus d'un demi-siècle, grâce aux nouvelles technologies de plus en plus performantes, l'image non seulement s'est animée, mais Internet l'a mise désormais à la portée de tous, à tout instant, presque en tout lieu. Avec Internet pour tous, ou presque, de nombreuses autres sortes d'écrans ont vu le jour et se sont ajoutés à celui de la bonne vieille télévision, devenant eux aussi d'usage quotidien au bureau, à l'école, à la maison et finalement partout. Certes, ils nous donnent d'énormes possibilités d'élargir nos connaissances, de démultiplier nos activités et nous permettent de nous brancher à la minute près sur l'actualité du monde. Mais comment ne pas s'en émerveiller ? Ils semblent rendre illimitées nos possibilités de communication, faisant fi des distances et du temps. Mais pourtant, lors d'une réunion de famille, nous sommes parfois choqués et songeurs en voyant une collection de jeunes visages penchés sur chacun sur son mobile. À moins qu'à l'entrée, on ait disposé une corbeille pour recueillir les portables et permettre retrouvailles et vraie communication entre les personnes. Notre émerveillement ne risque-t-il pas de s'émousser ? Nous voilà en tout cas devant un nouveau chapitre de l'éducation pour nous-mêmes et pour nos enfants. Nous allons donc évoquer aujourd'hui les inconvénients et dangers de ces technologies magnifiquement sophistiquées. Il est souhaitable de prendre un peu de distance par rapport à la séduction qu'elles exercent, surtout chez les jeunes. Demandons-nous si ces techniques nous aident à être plus humains. Et comment aider nos enfants et adolescents, naturellement peu enclins à respecter les limites, à dominer plutôt qu'à être dominés par ces outils techniques qui donnent l'illusion du « no limit » et qui bien souvent cultivent le narcissisme. Plusieurs études très sérieuses ont été menées par des chercheurs spécialisés en neurosciences cognitives, notamment Michel Desmurget, auteur de TV Lobotomy. On pourrait croire que l'auteur est de mauvaise foi tant le constat est accablant. Sans l'accuser d'être responsable de tous les maux, l'auteur montre que le petit écran nuit au bon développement des fonctions cérébrales. Le cerveau n'est pas le seul à faire les frais d'une exposition trop précoce ou trop prolongée devant la télé ou d'autres écrans. C'est pourquoi nous évoquerons aussi le fléau grandissant de la pornographie qui s'attaque aux enfants dès le primaire, souvent en cours de récréation, par le biais des smartphones par exemple. 80% des jeunes de 14 ans ont été confrontés à des images pornographiques. Les conséquences en sont lourdes sur les plans physiques, psychologiques, moraux et spirituels. Rappelons-nous que la meilleure prévention est la responsabilité des parents. Éducation à l'amour, respect de l'autre et de son corps. Enfin, ayons le courage de voir que l'emprise des écrans peut facilement aboutir à une dépendance et que de plus, celle-ci, difficile à guérir, est considérée comme la mère de la pornographie. Cette emprise nous entraîne progressivement dans un monde virtuel de plus en plus coupé du réel, ici et maintenant. Il a été constaté que les adultes adeptes de la pornographie n'avaient pas utilisé l'antidote aux écrans que sont lecture, jeux de société, promenade, visite culturelle, etc. Ces considérations, qui peuvent paraître peu réjouissantes, alarmantes même, ne doivent pas nous faire sombrer dans la mélancolie ou le désespoir, mais nous inciter à plus de prudence, de vigilance, à un dialogue doublé de fermeté avec nos enfants et ados, à une vie plus réelle que virtuelle. Ces outils peuvent être merveilleux, mais tout dépend de l'usage que l'on en fait et des limites que nous nous donnons à nous-mêmes comme à nos enfants. Là est notre responsabilité. Alors, on va déjà voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'écran, ou comment les écrans nous amènent à nous poser des questions inédites pour l'éducation de nos enfants. Donc nous, parents du XXIe siècle, nous accordons souvent à penser que l'irruption massive des outils numériques et connectés dans nos vies depuis 15 ans s'avère porteuse d'écueils redoutables pour nous-mêmes, ainsi que dans l'éducation que nous souhaitons offrir à nos enfants. Avec les smartphones, tablettes, ordinateurs et consoles de jeux, nous nous trouvons confrontés bien malgré nous à des comportements, des demandes et des transgressions d'un nouvel ordre de la part de nos enfants dans l'utilisation de ces objets. À quel âge équiper notre enfant d'un portable ? Dans quelle mesure limiter son temps sur ses jeux vidéo ? Comment surveiller son activité sur les réseaux sociaux, etc. sont autant de questions complexes qui nous semblent considérablement compliquer notre tâche éducative et nous font parfois envier la simplicité de celle de nos parents, à une époque où les écrans se limitaient à celui de la télé et du cinéma. Pourtant, ces nouveaux outils d'information, de divertissement et de socialisation peuvent constituer aussi de bons alliés pour nous aider à faire grandir nos jeunes et à grandir nous-mêmes. Ils nous obligent tout d'abord à une plus grande cohérence entre ce que nous exigeons de nos enfants dans l'usage qu'ils font de ces objets et nos propres comportements. Ainsi, on ne peut interdire à un ado de consulter son portable à table si l'un ou l'autre de ses parents continue lui-même à répondre à ses messages, même professionnels, pendant le repas familial. Impossible aussi d'être entendu par un enfant pour qu'il limite son temps de jeux vidéo s'il voit son père ou sa mère passer ses soirées sur Internet ou devant la télévision. Enfin, un parent ne peut décemment exiger de son jeune fiabilité et transparence s'il va lui-même, à son insu, fouiller régulièrement dans son portable ou bien décide arbitrairement de lui confisquer à certains moments. L'exemple que nous leur donnons est plus que jamais déterminant. De plus, ce surcroît d'autonomie et d'ouverture au monde que leur confère le téléphone portable et l'accès à des bases d'informations inépuisables ainsi qu'à des réseaux sociaux multiples, loin de nous remplacer dans notre rôle de parents et d'éducateurs, en étant encore davantage les responsabilités. Il nous faut être plus attentifs et vigilants face à des comportements nouveaux que nous pourrions percevoir chez nos jeunes comme une fatigue inhabituelle, un désinvestissement scolaire, un isolement social ou une agressivité soudaine, conséquence possible d'une mauvaise utilisation des écrans. Usage excessif ou nocturne, visite de sites internet dangereux, relations destructrices sur les réseaux sociaux, etc. Les nouveaux types de socialisation permis par ces applications multiples, les jeux en réseau, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, etc. peuvent être également l'occasion pour nous de leur énoncer ou bien de leur rappeler certaines valeurs fondamentales comme le caractère sacré de leur corps, de leur intimité, le respect de l'autre, la valeur de la parole donnée et de la confiance accordée, la prudence face à des propositions reçues, l'importance du choix des mots dans les conversations personnelles ou publiques, commentaires écrits ou enregistrés à l'intérieur des groupes, etc. Enfin, sur le plan intellectuel et cognitif, ces nouvelles sources d'informations diversifiées, comme les podcasts réalisés par les youtubeurs qui traitent de culture, d'actualité, de sport, de santé, sont pour eux l'occasion d'étendre de façon ludique leurs connaissances sur une multitude de sujets, tout en les incitant à développer leur esprit critique et leur discernement, pour peu que nous les y encouragions. Certains neuropsychologues en soulignent la richesse, montrant comment cet accès simultané et immédiat à des ressources multiples développe un nouveau mode de pensée original chez les jeunes, non plus seulement linéaire et séquentiel, comme enseigné en classe, mais de type analogique et holistique. Inutile aussi de souligner que quand nous prenons parfois le temps de nous intéresser à ce que nos enfants font sur leurs écrans, en regardant certaines émissions avec eux, ou en disputant des parties de jeux vidéo ensemble, comme le font certains pères et avec leurs fils, cela peut donner lieu à des moments de partage de qualité et éventuellement favoriser ou restaurer une communication avec eux, devenue parfois difficile au moment de l'adolescence. Donc sans les redouter, saisissons-nous plutôt de ces écrans pour réinventer notre métier de parent avec souplesse, créativité et avec l'espérance chevillée au cœur de pouvoir, malgré et grâce à eux, continuer à transmettre à nos enfants le meilleur de nous-mêmes. Alors, je vais vous parler un peu des écrans chez les tout-petits, chez les enfants en éveil, chez les 0-3 ans. De nombreuses recherches démontrent et confirment aujourd'hui les dangers de la télévision, plus particulièrement pour les enfants de moins de 3 ans. Ceci est compréhensible au regard du développement des enfants. Le bébé se développe en mettant en bouche, regardant, touchant, manipulant, jetant, courant, expérimentant, jouant. À travers ses activités, il développe sa motricité fine, ses repères dans l'espace à 3 dimensions et sa capacité à interagir avec ce qui l'entoure. Il a besoin d'activité, engageant ses 10 doigts et l'ensemble de son corps. Les écrans allumés accaparent toute son attention et risquent de le rendre agité, de nuire à sa concentration. Tout ce temps passé devant les écrans, il ne le passe pas à développer ses capacités primordiales pour son évolution. Là, ce qui est important ici, c'est de souligner que le temps passé devant les écrans, c'est un temps qu'il ne passe pas. Voilà. Et c'est ça le souci avec les écrans, c'est que ça l'empêche de faire des choses qui vont contribuer à son développement. Alors deuxièmement, le bébé a besoin qu'on lui raconte des histoires, de feuilleter des livres, d'images, pour installer les notions d'avant, pendant et après. C'est en se repérant dans le temps, grâce aux interactions directes avec les personnes qui l'entourent, que l'enfant entre dans le langage. La télévision ne peut en aucun cas remplacer l'interaction émotionnelle et affective avec l'entourage. La télévision, même spécifique au bébé, et même en présence d'un adulte, ne favorise pas ce type d'interaction, car aucune parole n'est vraiment adressée au bébé. Voilà, il n'y a pas de dialogue avec la télé. Troisièmement, face à l'écran, l'enfant est passif. Il n'a pas le sentiment de pouvoir agir sur le monde. Il n'est que spectateur. Or, pour son développement, le bébé doit être acteur et sentir très tôt sa possibilité d'agir sur ce qui l'entoure. C'est ce qu'il fait quand il manipule de petits objets autour de lui et quand il est en relation avec ses proches. Quatrièmement, l'enfant doit peu à peu apprendre à faire face à l'absence, au vide, à l'ennui. Cela lui permettra plus tard de ne pas être dans une activité incessante, une avidité de consommation. En se réfugiant dans la consommation des écrans, l'enfant évite d'affronter les angoisses de séparation ou les sentiments de frustration. Cela risque de l'entraîner dans une pseudo-satisfaction qui ne l'apaisera jamais, car le manque est interne et ne sera jamais comblé par un objet extérieur. Cinquièmement, soumis aux écrans, le jeune enfant devient captif du rythme très rapide des images, des couleurs, des sons. Cet environnement est d'une intensité largement supérieure aux stimulations habituelles de la vie quotidienne d'un bébé. Il risque alors d'intégrer cette excitation comme ingrédient nécessaire dans sa personnalité en formation. D'un côté, on recourt à la télé pour que l'enfant reste tranquille, et de l'autre, aussitôt que l'écran est éteint, ce même enfant révèle une agitation croissante. À tout âge, le temps passé devant les écrans est un temps pendant lequel l'enfant ne joue pas. Or, le jeu est une activité primordiale qui lui permet de développer créativité et capacité intellectuelle, ainsi que l'acquisition du langage. De plus, le jeu encourage l'enfant dans ses capacités à être seul et à se confronter à l'ennui, point essentiel à son développement. Ainsi, l'enfant s'éveille, à l'écart des écrans, en jouant dans la vie quotidienne avec ses parents, ses proches et dans les structures d'accueil auxquelles ses parents le confient. En fait, je vais lire un chapitre d'un livre qui s'appelle « Le meilleur pour mon enfant » aux éditions Les Arènes de Guillemette Fort. Voilà, c'est un extrait du chapitre 1 qui parle d'une école en plein cœur de la Silicon Valley, une école sans ordinateur. Donc c'est des petits extraits. Donc une école sans écran au pays des écrans. Il n'y a pas un ordinateur, pas une télé, pas un écran dans l'école. Mais on y fait cuire du pain dans un four à l'ancienne, on y tricote des chaussettes dès l'équivalent du CP, on y dessine des cartes de géographie sur des tableaux noirs et à main levée. Les outils informatiques sont introduits en quatrième. Il est recommandé aux parents de limiter au maximum l'accès aux écrans à la maison, jusqu'à l'équivalent de la sixième. Les parents de la Waldorf School maîtrisent les technologies et ne s'imaginent pas que leurs jeux vidéo et dessins animés mettent des diablotins dans les cerveaux de leurs enfants. Ils pensent seulement que l'on apprend plus et mieux autrement. On apprend mieux avec tous ses sens. Pour apprendre à écrire, partir de grands mouvements, pas seulement de tracer au doigt sur un petit écran. Les maths passent par la visualisation dans l'espace. On apprend les multiplications en dessinant et en sautant à la corde. Jean Piaget et Maria Montessori ont montré comment les enfants apprenaient en explorant le monde avec tous leurs sens et en manipulant le plus de choses possible. Comment cela fonctionne dans un cerveau? Corps calleux, hémisphère droit et hémisphère gauche. Le corps calleux est le pont qui relie les deux hémisphères de notre cerveau. Lorsque j'utilise ma main droite, j'utilise principalement mon hémisphère gauche et inversement. En faisant passer un objet d'une main dans l'autre, je développe le corps calleux. Déboucher des feutres et colorier, ce n'est pas la même chose que passer un doigt sur un coloriage numérique. C'est interactif, le mot magique. La télé serait abrutissante, tandis que l'iPad interactif élèverait l'esprit. Grosso modo, une appli ne fait rien si l'enfant ne touche pas l'écran. La télé, elle, continue quand l'enfant regarde ailleurs. C'est ça qui donne à la tablette la capacité de garder l'attention de l'enfant. Sa force, son interactivité, est aussi sa faiblesse, parce que l'enfant ne peut s'en dégager. Certes, les enfants apprennent quelque chose avec une tablette, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'ils auraient aussi appris autrement. L'ingrédient magique dans l'apprentissage, dit la chercheuse américaine Cathy Hirsch-Pasek, c'est la conversation. Mettons les choses au point. Ce n'est pas parce qu'un enfant utilise les nouvelles technologies mieux que nous qu'il va devenir ingénieur. En utilisant, on devient surtout utilisateur. Les technologies d'aujourd'hui ne préparent pas à l'inconnu de demain. L'étude PISA compare les niveaux des enfants de 15 ans dans les pays de l'OCDE. Dans ceux où ils obtiennent les meilleurs scores, comme la Corée ou la Pologne, les calculatrices ne sont pas autorisées pendant les examens de maths. Ce n'est pas parce qu'un enfant apprend à utiliser une technologie qu'il apprend à réaliser une tâche. À la Waldorf School, les parents considèrent que quel que soit le monde dans lequel leurs enfants vivront, ils auront besoin d'apprendre à apprendre. Ils auront besoin d'un cerveau suffisamment souple pour explorer ce qui est encore inconnu aujourd'hui. Les effets des jeux vidéo violents existent bien. On sait que les classifications sur les jeux vidéo n'ont aucun effet, voire exercent l'effet inverse. quand la télé regarde-t-il des émissions ou des pubs? Mais comme pour les tablettes ou les jeux vidéo, ce n'est pas tant ce que la télévision fait aux enfants qui peut préoccuper les parents que ceux qui ne le font pas quand ils la regardent. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les tout-petits de 0-3 ans. Donc, ce qu'ils ne font pas quand ils regardent un écran, c'est apprendre, expérimenter, bouger. Voilà, ce qui est l'essentiel pour un enfant. Alors, la lecture est le légume vert des loisirs. C'est bien la lecture qui a le plus d'effet sur les capacités de nos enfants. De la mobilisation à la persévérance, la lecture développe des capacités essentielles à l'apprentissage. PISA a interrogé les parents sur les types d'activités qu'ils avaient avec leurs enfants petits. C'est le fait de lire à son enfant pendant ses premières années qui a l'effet le plus marqué. Dans tous les pays et économies examinées, à l'exception de la Lituanie, les élèves auxquels leurs parents lisaient des livres au moment de leur entrée au primaire sont plus susceptibles d'avoir de meilleurs scores en compréhension de l'écrit à l'âge de 15 ans. On ne peut pas attendre d'un enfant qu'il ait une consommation plus raisonnable que la nôtre. Le groupe démographique qui passe le plus de temps sur smartphone n'est pas celui des ados, comme s'en plaignent leurs parents, mais les mères d'enfants de moins de 5 ans. Tandis qu'ils s'efforcent de déchiffrer pour la première fois des mots et des phrases, seulement 40% environ des enfants voient leurs parents en train de lire en même temps qu'eux lorsqu'ils lèvent le nez de leur premier livre, note l'enquête PISA. Ranger sa tablette, éteindre la télé, poser sa console, on serait plus crédible si on donnait l'exemple. Voilà, donc c'est un extrait du livre « Le meilleur pour mon enfant » de Guy Medford. Voilà, pour illustrer un petit peu ce que je disais.
Oui, bonjour. Donc, je me présente. Je suis dans la coiffure.
Oui.
Et je fais de la catéchèse pour enfants handicapés.
Oui.
Et de là, je me suis aperçue tout ce que j'ai acquis dans ma profession, comment je pouvais le transmettre auprès d'enfants trisomiques, dyspraxiques, pour justement les sortir de ces écrans qui leur sont proposés, soit dans leur foyer, soit dans leurs établissements aussi, puisque les dyspraxiques, on les encourage à utiliser uniquement en fait l'ordinateur.
Mmh.
Et en l'occurrence, j'ai une petite stagiaire qui était dyspraxique de 17 ans. Et là, je l'ai appris, parce que se positionner devant la tablette et le portable, elle sait faire, mais lors d'une prise, on a fait un exercice pour donc prendre la prise d'un rendez-vous, se positionner devant la feuille, on prend le crayon, on prend le temps de regarder ce qui est inscrit en face de nous, de regarder la personne et de l'écouter qui est en face de nous, d'entrer dans cette communication, dans cette écoute. Et là, je me suis aperçue que dans notre métier, en fait, on a acquis une motricité qui n'est plus à la mode, et qui pourtant permet justement aussi de leur apprendre la respiration. On se pose et c'est trouver sa place aussi. Chose que, en fait, tout ce qui est, les ordinateurs, la communication, donc par SMS, etc., eh bien, tout ça, en fait, on les handicape davantage. Voilà. Donc, j'essaie de faire passer le message au maximum. Et d'encourager les parents, puisque moi-même je suis mère de famille, et voyant que mon fils de 18 ans prêtait beaucoup plus attention à la télé, soi-disant pour se détendre, j'ai eu le courage, grâce à la prière, de retirer la télé de chez nous, de notre foyer. Il n'y a plus de télé, et notre vie a changé. Voilà.
Oui.
Voilà, donc j'encourage tous les parents qu'ils osent le faire pour le bien de l'enfant, puisque en fait, on handicape certains enfants qui ont des capacités, mais même avec un handicap, un enfant a des capacités. Il faut les sortir de là et les inviter et avoir une autre dynamique familiale, puisque cette dynamique, souvent, c'est ce que je me dis, si le Seigneur devant le Saint-Sacrement avait autant d'adorateurs que tous ceux qui se posent devant dans la télé, nos oratoires et nos tabernacles seraient vraiment habités. Voilà.
Merci beaucoup, Marilyn, pour votre témoignage.
Donc, je vous remercie de passer ces émissions pour que, en fait, les parents, parce que nous sommes vraiment responsables, prennent des forces en vous écoutant. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup, Marilyn.
Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis merci encore.
Merci.
Merci, Marilyn. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Marilyn, donc qui est coiffeuse et qui dit coiffeur dit ciseaux. Alors, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les écrans, mais finalement, je pense qu'on peut retrouver ce genre de problème de nos jours. Je connaissais le cas d'une jeune fille qui a sauté la dernière année de maternelle parce qu'elle était surdouée. Et cette dernière année de maternelle, les enfants apprennent à utiliser une paire de ciseaux. Et arrivée à l'adolescence, elle savait très très mal découper. Elle avait raté cet apprentissage-là de gestes qui peut nous sembler simples. Mais effectivement, si les enfants maintenant passent beaucoup de temps devant les écrans, ils perdent ce genre de gestes de base.
Exactement, oui, c'est ça. Tout le temps passé devant les écrans, il faut se dire que c'est un temps qu'ils ne passent pas à apprendre autre chose. Et en fait, toutes ces choses qu'ils ont besoin de savoir faire, de développer pour devenir des adultes complets. Voilà, donc c'est du temps finalement que nous leur volons sur des besoins fondamentaux qu'ils ont de développement. Alors, j'ai aussi envie de rebondir par rapport à ce que disait Marilyn. Il y a une citation, alors je ne sais plus qui dit ça. Mais quelqu'un qui dit « Nous devenons ce que nous contemplons ». Voilà. Donc, qu'est-ce que nous contemplons ? Et c'est vrai que quand on pense au temps, quand on se demande le temps qu'on a passé devant un écran dans la journée, voilà, si on se dit qu'on va devenir une boîte carrée, ça peut inquiéter certains ou en rassurer d'autres, je ne sais pas. Chacun est libre avec sa conscience. Et merci à Marilyn pour son témoignage qui fait du coup une transition avec ce dont je voulais vous parler, justement, qui est de la question de la motricité. Voilà, alors je vais prendre les propos d'une institutrice qui s'appelle Odile Walsh et qui parle notamment du développement de l'écriture, voilà, de l'importance de savoir écrire. Alors elle dit « Écrire à la main aide au développement de la focalisation proche par le regard ». Car le regard est fixé sur la pointe du stylo. Voilà. Écrire à la main aide au développement de la focalisation proche, car le regard est fixé sur la pointe du stylo. Voilà. Chose qu'on ne fait pas du tout quand on tape sur un ordinateur. Tandis qu'un ordinateur, la vision, est sans cesse en mouvement entre clavier et écran, sans oublier que les faisceaux lumineux et la lumière de l'écran excitent le cerveau au point de générer chez certains une perte de mémoire et du sens de la réalité. Les jeux vidéo, utilisés à forte dose, provoquent une excitation sensorielle intense de l'hémisphère droit. Alors Maria Teresa Siniscalco, consultante dans le domaine de l'évaluation et de la recherche éducative, et Mario Ponta, analysent dans leur livre qui s'appelle « Parents, enfants, écrans » aux éditions Nouvelle Cité. Ils analysent les conséquences sur les enfants utilisateurs d'écran, jeux vidéo, ordinateurs et tablettes. Leur analyse recoupe celle d'autres professionnels et enseignants en maternelle ou primaire. Ils constatent tous la même chose. Les enfants, même en maternelle, qui passent le plus de temps devant un écran, sont en général plus excités, surtout le lundi à cause du temps passé durant le week-end sur les écrans. Leurs jeux en classe ou en récréation ne sont plus les mêmes. Leurs façons de raconter ce qu'ils ont vécu le week-end sont différentes. S'ils racontent une expérience vécue réellement, ils mettent plus de temps pour réfléchir à ce qu'ils disent. Sinon, c'est un flot de paroles ininterrompu pour raconter le contenu d'un film ou d'un jeu vidéo. Il y a aussi un appauvrissement de l'imagination qui permet de faire semblant. Voilà, ça, le faire semblant, c'est encore une étape. On parlait d'apprendre à se servir des ciseaux. Mais le faire semblant, c'est quelque chose de fondamental dans le développement de la psychologie d'un enfant. Le réalisme des images, des écrans, réduit cette capacité. On observe une plus grande fatigabilité. D'autre part, les écrans présentent des images visuelles qui ne permettent pas à l'enfant de se construire ses propres images mentales. Voilà, c'est important aussi, hein. La baisse des facultés d'attention et de concentration provoque un manque de participation en classe, moins de persévérance dans l'effort d'apprendre, moins d'autonomie et même une certaine passivité dans les apprentissages, sans oublier un manque d'attention évident. Alors, serait-ce une entrave au développement de l'intelligence langagière, spatiale, concrète ? Pour Sabine Duflo, qui est psychologue en centre médico-psychologique pour enfants, les tablettes nuisent au développement cognitif des jeunes enfants, jusqu'à la fin de maternelle, c'est-à-dire 5-6 ans. Elle constate des retards de langage, des troubles de l'attention ou une impulsivité chez les petits-enfants, essentiellement stimulés par les divers écrans. En observant de jeunes enfants, utilisateurs réguliers de tablettes ou de téléphones portables, elle dit « J'ai pu voir par moi-même chez des amis qu'ils ne savaient même plus tourner les pages d'un livre. Ils touchent avec leurs doigts en faisant le geste de faire glisser la page pour suivre l'histoire. C'est impressionnant. » Elle pense que réellement, c'est un enjeu de santé publique parce que les prémices de la communication du langage, dans son rapport à l'autre, se mettent en place très tôt. Elle propose alors aux parents d'utiliser une méthode simple qu'elle appelle les 4 pas. Alors, dans la journée, 4 moments sans écran. Jamais le matin, ni pendant les repas familiaux, ni le soir avant de dormir, et jamais dans la chambre de l'enfant. Voilà, la méthode des 4 pas. Dans la journée, 4 moments sans écran, jamais le matin, ni pendant les repas familiaux, ni le soir avant de dormir, et jamais dans la chambre de l'enfant. Un instituteur italien, Franco Lorenconi, proposait de libérer les enfants de 3 à 8 ans des écrans, au moins à l'école, car, pour lui, les enfants ont besoin du monde réel pour nourrir leurs pensées et leur imagination. De même, ils ont besoin d'observer la réalité, d'utiliser les 5 doigts de leurs mains pour construire, modeler et dessiner. Ils ont besoin d'entrer dans un livre en le feuilletant, d'apprendre à écrire avec des stylos et des crayons, mais aussi, ils ont besoin d'adultes attentifs, capables de les écouter et de dialoguer avec eux. Force est de constater que beaucoup d'élèves entrant en 6e ne sont pas capables ni d'utiliser les ciseaux, c'est ce que vous disiez tout à l'heure Sandra, ou la règle, ni d'écrire de façon ordonnée, en respectant les lignes et les marges. Près de la moitié des élèves d'une classe ne savent pas tenir leur stylo correctement dans la main. C'est affolant. Ils ont beaucoup d'idées, mais ne savent pas comment utiliser les instruments traditionnels pour exprimer leur créativité. En fait, ça les met en situation d'échec. L'impact des écrans joue aussi défavorablement à la baisse pour les apprentissages en lecture et sur le désir de lire. Le temps passé sur les écrans réduit donc leur envie de lire et leur capacité à se concentrer lors de la lecture. D'autre part, certains chercheurs ont constaté que les écrans ont tué l'ennui. Vous savez, le « je sais pas quoi faire, je m'ennuie, je peux mettre à l'ordinateur ?» Voilà, ça empêche un esprit créatif des enfants. De faire une cabane, de faire de la pâte à sel, du papier mâché. Alors, quel âge pour quel écran ? Les auteurs se posent alors la question quant à l'accès à Internet. À partir de quel âge ? Entre 7 et 9 ans, nous devons nous tenir à leur côté, parler avec eux de l'usage qu'ils font d'Internet. Les aider à éviter les pièges en dialoguant avec eux, en les faisant réfléchir sur les intérêts cachés derrière et à l'intérieur de l'écran. Leur faire comprendre que tout ce qui est mis en ligne laisse une trace et qu'ils doivent protéger leur espace intime et personnel. Choisir pour eux et avec eux des émissions ou des jeux de qualité. Accompagner l'enfant signifie aussi le soutenir dans son travail d'interprétation du monde sur écran. Pour une meilleure utilisation du numérique à l'école, Serge Tisseron, docteur en psychologie, psychiatre et membre de l'Académie des technologies depuis 2015, porte ses recherches sur les relations que nous établissons avec les images et nos rapports aux nouvelles technologies. Selon lui, les tablettes sont plus adaptées aux jeux qu'aux apprentissages scolaires. Elles sont toutefois utiles pour surmonter des handicaps sensorimoteurs et relationnels. Il poursuit. Il faut éviter que des enfants utilisent chez eux des outils numériques qui mettent en avant des images sans parole, comme beaucoup de jeux vidéo, et qu'à l'école, il n'est affaire qu'à du langage parlé. Ce clivage tue la créativité. Il faut encourager les passerelles entre les deux, les images et la parole. L'avenir appartient aux enfants qui sauront utiliser à la fois l'intelligence visio-spatiale et l'intelligence verbale et passer de l'une à l'autre dans les deux sens. Bien utilisé, le numérique permet aussi à l'enfant de travailler à son rythme en se construisant sa propre feuille de route. Il ne se sent pas jugé par l'ordinateur et il peut prendre confiance plus qu'en étant sous le regard de l'enseignant. Voilà, on voit que ça a aussi des avantages. Quoi qu'il en soit, selon Denise Berthet, l'attitude corporelle est différente dans les deux cas. Avec l'ordinateur, celui qui frappe sur le clavier est en face à face avec l'écran, alors que le scripteur est au-dessus de la feuille dominant le texte. La situation psychologique est donc différente. Enfin, Odile Walsh conclut en disant que l'écriture manuelle est une source d'enrichissement. Il serait bon que l'écriture manuelle garde la primauté dans la vie de toute personne, jeune et moins jeune. Par son expressivité de tout l'être, dans son essence, elle empêchera tout appauvrissement et contribuera à la richesse des sentiments, de la pensée et de la vie relationnelle. Ce qui confirme que l'ordinateur a sa place, en complément et non en substitution de l'écriture manuscrite. Contrairement à l'ordinateur, l'écriture manuscrite laisse filtrer ma personnalité, mon moi. Ce que l'ordinateur ne nous dit pas et que dit l'écriture manuscrite, c'est que chaque personne ne ressemble à aucune autre. L'écriture manuscrite est celle qui engage une responsabilité.
Alors ça me fait penser à une chose. Avant, quand un élève avait un exposé à préparer, il allait à la bibliothèque. Ils cherchaient dans des livres. Aujourd'hui, les élèves ont tendance à chercher sur Internet, trouver un article qui correspond au thème de leur exposé et à faire du copier-coller.
Ouais.
Alors, je ne dis pas qu'Internet ne peut pas servir justement à chercher différentes informations sur un sujet, mais malheureusement, je pense que les enfants, il leur manque cet apprentissage de chercher dans différents ouvrages.
Oui, tout à fait. Ce qui leur manque, c'est le côté recherche, en fait. C'est apprendre à apprendre. C'est vrai qu'avant, on allait dans des énormes dictionnaires dans lesquels on glissait des timbres. En fait, bon, c'est sûr que ça a complètement changé. Aujourd'hui, il suffit de se connecter sur Google et puis d'entrer le mot recherché. Ça limite la capacité de recherche, l'effort à fournir. Voilà. Avant, on recopiait, maintenant, on fait copier-coller. Oui, tout à fait.
Et ça limite peut-être aussi l'esprit critique, parce que quand on cherchait dans différents ouvrages, il pouvait y avoir sur certains points des divergences d'un auteur à l'autre. Il y avait matière à réflexion.
Ouais.
Si on prend tel quel un article sur Internet, on n'a qu'un point de vue.
Oui, tout à fait. Et donc, tout dépend vraiment de l'usage qu'on en fait. On voit que ça peut être une source exceptionnelle d'informations, mais si c'est bien utilisé. D'où une responsabilité encore plus grande des parents. Voilà, par rapport à l'accompagnement qu'ils font de l'utilisation de ces outils.
Alors, il nous reste encore quelques minutes. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter en conclusion de cette émission qui était très intéressante.
Oui, alors, pour prendre un petit peu de recul... des idées pour se déconnecter. Alors, un peu en vrac. De plus en plus de personnes prennent des initiatives, telles que Marilyn. Voilà, on voit qu'il y a un moment, on peut se poser des questions et se dire, mais est-ce que vraiment c'est comme ça que je veux vivre? Donc, des gens qui suppriment la télévision de chez eux. J'en connais de plus en plus. Il peut y avoir aussi de laisser les portables et ordinateurs dans une boîte posée dans l'entrée de chez eux dès leur retour du travail. De mettre un accusé de réception à leur boîte email personnelle, indiquant qu'elle ne consulte cette boîte que le lundi, mercredi et samedi, par exemple. Au restaurant, tous les téléphones sont posés au centre de la table. Le premier des convives qui répond au sien ou consulte, ne serait-ce qu'un SMS, paye la note. De sortir de chez soi sans son téléphone. D'utiliser un vrai réveil, ne pas utiliser le téléphone comme réveil. De programmer la coupure du Wi-Fi à partir de telle heure le soir. D'organiser des journées entières en famille sans aucun écran. Chiche. de trier le contenu de son ordinateur et de faire le deuil des articles que l'on ne lira pas et hop, à la corbeille. Alors, ce SMS est-il indispensable ? Combien de temps ai-je passé sur Internet aujourd'hui ? Ai-je consulté mon téléphone devant les enfants ? À moins d'une urgence, évidemment. Au fait, ai-je réfléchi à des règles d'usage des nouvelles technologies à la maison ? Comment est-ce que je me sens une fois que j'ai passé quelques jours sans aucune connexion ? Voilà, les nouvelles technologies se sont immiscées sans bruit dans nos vies. Comme tout changement, nous aurons besoin de temps pour en mesurer les conséquences. Ces nouvelles technologies de l'information et de la communication sont séduisantes, occultent parfois nos jugements. Ayons le courage de prendre du recul régulièrement pour mesurer l'intensité et l'immixtion de ces nouvelles technologies dans nos existences. Et simplement pour vous donner des références, voilà, Qui a peur des jeux vidéo de Serge Tisseron aux éditions Albin Michel. Manuel à l'usage des parents dont les enfants regardent trop la télévision de Serge Tisseron. Malade de nouveaux médias de Jean-Claude Larcher aux éditions du Cerf. Les dangers de l'écran enfants, famille, société et violence de René Blin. TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télé de Michel Desmurget. Et enfin, Lily regarde trop la télé de Saint-Mars aux éditions Serge Bloch. Voilà, merci beaucoup Sandra et merci à chacun des auditeurs. Merci à Marilyn pour son beau témoignage.
Alors, merci beaucoup Camille, parce que votre sujet d'aujourd'hui rejoint l'homélie que j'ai entendue hier à la messe. L'évangile disait « veillez » et le prêtre a bâti son homélie sur « veillez » et, donc à notre verbe, donc je vais commencer par les deux derniers, « veillez et priez »,« veillez et aimez », et le premier c'était « veillez et éteignez ».
Ouais.
Merci beaucoup Camille.
Merci Sandra.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.